Bonjour Gilles Proulx.
Bonjour mon cher Martin.
Ah, tu me fais sourire lorsque j'ai vu tes sujets aujourd'hui en disant que Jean Charest, de par son désistement, ne sera pas consacré par l'histoire. Pourquoi?
Il y avait déjà eu une douzaine d'historiens au tiers de son mandat au Québec qui jugeaient que ce gars-là ne passerait pas à l'histoire avec un grand H. Et je pense qu'il l'a confirmé hier. Ça a été courageux. C'est un gars très habile, il n'y a pas de doute. Il a démontré qu'il était un excellent joueur de tennis en renvoyant la balle dans le clan de la police, c'est-à-dire l'UPAC, qui mérite une enquête. Ça, là-dessus, il a raison. Mais c'est habile et pertinent de dire ça, sauf que ses amitiés avec Marc Bibeault, qui est quasiment son ange gardien, un gars honnête, a-t-il répété, il ne nous a pas expliqué pourquoi ce collecteur d'argent est devenu un spécialiste du retardement des enquêtes. Et c'est là qu'il y a anguille sur roche. Quand tu deviens un spécialiste du retardement des enquêtes qui n'avance pas, et on parle de cette maudite histoire-là depuis maintenant presque 10 ans, bon Dieu, il faudrait savoir qu'il y a anguille sur roche. Et c'est à là que la presse devra fouiller, je pense. Et au fond, Jean Charest lâche aussi son projet, parce qu'il est lâche, là. Il lâche son projet en même temps de ne pas aller au Parti conservateur, parce qu'il a changé de Parti conservateur. Mm-hmm. Je pensais que l'intelligence, c'était la capacité de t'adapter. Mais dans le fond, il est passé franc pour dire que c'est Stephen Harper qui lui met un chien de sa chienne sur son perron. Et au total, sur cette confession, Jean Charest ne passera pas pour un grand premier ministre. Il n'a pas marqué l'histoire du Québec, québécoise en tout cas, à l'enseigne de la fierté. Il n'a jamais entrepris des débats sur... D'abord, quand il a pris le pouvoir, il était le vainqueur. C'est lui qui se vantait avec son passeport dans la main droite à crier haut et fort à l'auditorium de Verdun que « Allez-vous briser mon beau pays? » Puis là, c'est comme ça que ça a reviré avec le 49,40 contre les tenants du fédéralisme. Alors, on a dit « C'est le sauveur du pays. » Mais le sauveur du pays n'est jamais arrivé avec un projet constitutionnel pour le Québec, par exemple, pour dire on a peut-être, les Québécois ont peut-être perdu, mais ils n'ont pas perdu totalement. Non.
En tout cas, chose certaine, du point de vue constitutionnel, on est resté comme collé en 79, à peu près. Là.
Très juste, exactement. On est encore à la case zéro.
Exact. L'Institut Fraser, qui trouve que Justin Trudeau dépense trop, ben voyons donc, on avait-tu vraiment besoin de l'Institut Fraser pour se convaincre de ça?
Oui, mais l'Institut Fraser, c'est supposé de très sérieux. Il y a des gars avec des calculatrices puis des filles avec des crayons pour surveiller tous les cahiers. Oui. Alors, c'est du sérieux économiquement parlant. Mm-hmm. Alors, on nous apprend que Justin Trudeau est le pire dépensier de l'histoire. Et avant lui, on avait été habitué par un autre dépensier qui s'appelait Pierre-Éliott Trudeau. À ce moment-là, ça s'expliquait, il était influencé par le NPD, il était minoritaire à un moment donné, et puis le Québec faisait des revendications, alors il achetait des programmes pour séduire le Québec, neutraliser l'opinion, puis on alourdissait la dette. C'est la même maudite affaire avec Justin, toujours est-il que là, on n'était pas quand même en 2019, à la veille d'une guerre, où tu es obligé d'acheter des chars d'assaut puis réparer tes F-18 qui sont mal en point. Alors, pourquoi tant de dépenses? Moi, je pense que 19, les dépenses, à nos frais, bien sûr, c'est parce que c'était l'année de l'élection. Les sondages le mettaient battu ou minoritaire et battu. Alors, il nous a endettés, chacun d'entre nous, on est quoi, 33, 34 millions, de 10 000 $ chacun. Alors, c'est pas grave, vont dire certaines mémères, mais il faudrait pas que le taux d'intérêt augmente pour nous faire mal. Et là, aux prochaines élections, M. Justin va avoir affaire, si jamais ils en trouvent un, à un chef politique au Parti conservateur qui pourra l'affronter.
Oui, puis surtout, tu sais, à nous dire que, oui, vous savez, on continue de s'endetter, puis... Mais tout ça, ça contraste tellement avec des discours qui nous venaient sensiblement des mêmes personnes qui disaient « Il faut arrêter d'endetter nos prochaines générations, nos enfants. Mais c'est drôle, c'est exactement ce qu'on fait présentement au Canada.
Oui, pensez à nos enfants. Combien de fois on nous a sorti cette marotte-là? Bon, on voit qu'on s'en fout comme l'an 40. Puis dans le fond, l'opportunisme est là et on sort le chéquier pour se maintenir au pouvoir.
Ah, le jour de la marmotte, d'après moi. C'est d'ailleurs un de mes classiques, un film que j'aime bien écouter de temps en temps. Le jour de la marmotte avec le sommet de Davos, le fameux sommet économique mondial.
L'image ne peut pas être plus belle, le jour de la marmotte. Et au sommet de Davos, on parle d'économie, bien sûr, mais aussi d'environnement. Ça, c'est nouveau à cause de la présence de la petite Greta Thunberg. D'abord, ce sont des milliardaires qui discutent, puis des millionnaires d'abord. Puis souvent, ils discutent, entre parenthèses, comment innover avec des échappatoires d'impôts. Mais c'est pourquoi, là, tout d'un coup, on devient environnementaliste. On veut planter des arbres. Et même l'environnementaux sceptique, Donald Trump, est d'accord pour qu'on rajoute une couple de milliards d'arbres sur notre bonne vieille planète bleue mal en point. À ce sujet, Martin, on en a parlé tous les deux au cours des dernières années, j'aimerais tout simplement rappeler que lors d'un sommet au Cap, en Afrique du Sud, on avait suggéré exactement la même chose, et ça fait 25 ans. C'est-à-dire qu'on plantait des milliards d'arbres pour fertiliser le Sahara. On n'en a jamais reparlé. Alors, encore une fois, c'est du parle-parle, jar-jar, parle-parle. On en parlera sans doute lors du prochain sommet de Davos et on sera toujours à la case zéro.
Malheureusement, je suis obligé de te donner raison, mon cher Gilles.
Ben, tu te rappelles qu'on en a parlé tous les deux du gars, le savant, qui avait proposé de fertiliser le Sahara. C'était une belle idée.
Oui.
C'était une très belle idée, mais ça fait 25 ans, pareil.
Mm-hmm. Mais et le Sahara qui a déjà été, faut-il le rappeler, une mer?
Oui, il faut le rappeler, oui. C'est une jungle. Oui,
quelques siècles, mais il reste quand même que, bon, la Terre, c'est comme le Groenland, de son vrai nom, Greenland. On parle beaucoup de la disparition de la glace au Groenland, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelait Greenland à une certaine époque. Hein? C'était la verdure.
Certainement, quand Éric Leroux s'établit là puis essaie de mettre des comptoirs, il s'aperçoit que la température change, il va lorgner vers d'autres caps.
Ouais.
Mais effectivement, au tous les 2-3 000 ans, bon, il y a des périodes de changement climatique. Mais dans le cas du Sahara, moi j'étais allé en Algérie, je me rappelle, et puis l'armée algérienne était là. Je trouvais ça beau, l'armée algérienne servait à d'autres choses que de niaiser dans une caserne. Ils plantaient des arbres qu'ils avaient achetés justement de l'Australie et puis faire une barrière qui partait du Maroc pour aller jusqu'à la Tunisie pour arrêter la montée du Sahara.
Oui.
Et on s'aperçoit que le Sahara grimpe toujours et gagne justement en grugeage de la terre fertile.
Merci, Gilles Proulx. À demain.
À demain. Au revoir.
Salutations. Non? Tellement génial d'avoir quelqu'un qui, tu sais, je suis allé là-bas, voici telle affaire, puis c'est ça, Gilles Proulx et sa mémoire et ses grands voyages. Parlant de voyage, eux, ils ont fait un voyage qui n'était pas prévu et surtout pas souhaité, c'est-à-dire l'expulsion du Canada vers l'Espagne. Je parle de la famille Batalla-Charis, qui, ces jours-ci, bien, ça fait 2 mois qu'ils ont été renvoyés du pays. Et à savoir comment ça se passe là-bas, pour les enfants également versus l'école, mais aussi dans leur démarche, parce qu'ils avaient dit « Nous, on veut revenir ». Est-ce que les démarches sont commencées ou c'est rendu? Quel genre de démarches et surtout de réponses ont-ils obtenues? On fait le point, on appelle en Espagne et on va parler avec Mme Batalla.